ya do amin ya kama
Donc Célina, on vient d'assister à une grande, quoi, une assez bonne démonstration du Maputo contre le GSP d'Alger. Ce match s'est terminé sur une victoire de Maputo sur la marque de 86 à 73. Donc Maputo, en gagnant ce match, en fait, se qualifie d'une certaine manière déjà pour le deuxième tour, car avec cette deux victoires et son match perdu, au pire des cas, elle serait meilleure troisième. C'est à coup sûr, parce que en perdant le premier match de 16 points, en gagnant le deuxième de 14 et en gagnant celui-là de 13 points, elle se met dans une position qui, d'une certaine manière, est peut-être meilleure que celle de, pour le moment, de l'AS Douanes qui n'a pas encore joué son troisième match, et celle de, des forces armées de police qui ont perdu deux matchs. Donc, en gagnant deux matchs, elle passe devant les forces armées de police directement.
Quoi qu'il advienne, je pense qu'ils sont qualifiés, quoi qu'il advienne.
Oui, tout à fait.
Match, parce qu'il n'y a que trois poules, et dans la première poule, il y a déjà des équipes qui ont deux défaites. Donc, on ne peut pas avoir de meilleur troisième. Dans cette poule, on ne peut pas avoir un meilleur troisième qui totalise le même bilan que Maputo. Donc, Maputo est qualifié après cette victoire.
Tout à fait. En tout cas, c'est clair de ce côté. Donc, on a vu en fait une équipe de, comme on l'avait dit, une équipe du GSP d'Alger, qui n'est pas prête physiquement à jouer quatre cartons. Ils sont trop courts, il n'y a pas de banc de qualité d'une certaine manière, puisqu'on a vu des joueurs prendre des tirs quelquefois, se poser la question. Qu'est-ce qui se passe? On a vu énormément de pertes de balles sur des marchés, ça veut dire qu'ils n'ont pas des bons appuis. Donc généralement, les équipes maghrébines sont techniquement très très fortes sur ces petits détails, mais pour une raison ou une autre, le GSP n'avait pas un banc profond, ce qui fait que le jeu s'est basé en grande partie sur Hamdini, qui a marqué 33 points, mais c'est un peu comme le premier match qu'ils avaient perdu, où le match s'était basé sur Arat en attaque. Cette fois-ci, Arat blessé malheureusement à l'entraînement, d'après ce qu'on a entendu, n'a pas pu jouer ce match et ça leur a coûté très cher, même si c'est vrai qu'ils ont encore un troisième match à jouer contre le Zamalek d'Égypte, Célina.
Oui, comme tu l'as dit, on a vu une équipe qui a eu des pertes de balles, qui n'a pas su rentabiliser, qui a été très maladroite au shoot avec 41% de réussite. Donc, on pense que si Arat avait joué, en tout cas, ce deuxième match nous montre que si Arat et Hamdini avaient été associés de la meilleure des manières lors du premier match, ils auraient pu s'en sortir. Parce qu'on voit Hamdini qui met 33 points, bien plus qu'Arat lors du premier match. Et on se rend compte que, comme tu l'avais dit tantôt, lors du premier match, Hamdini était très bien parti, tout comme Arat. Mais ensuite, le dernier nommé a monopolisé la balle et le jeu à son compte, en tuant ainsi l'entrain avec lequel Hamdini avait démarré ce match-là. Et dans ce deuxième match, Hamdini a montré son talent et sa panoplie technique, parce qu'il shoot à plus de 50% à deux points, il shoot à 58% à deux points, 50% à trois points et 100% au lancer franc. C'est-à-dire qu'il est adroit et qu'il est très technique. Donc on ne comprend pas pourquoi l'entraîneur n'avait pas cherché à établir une certaine alchimie entre lui et Arat lors du premier match, parce que ça leur aurait permis peut-être de ne pas se faire dominer par l'AS Douanes. Malheureusement pour eux, Arat était blessé sur ce match. Et je pense que lors du troisième match contre le Zamalek, en voyant ce qu'Amdini a fait aujourd'hui, et si Arat revient, il peut faire mal à cette équipe du Zamalek. L'autre enseignement de ce match, c'est que le Ferroviario de Maputo n'est pas faible, comme aurait pu le laisser croire le premier match, où on s'était un peu attardé sur le niveau affiché par le Zamalek. Mais en regardant les deux derniers matchs du Maputo, on se rend compte que cette équipe est très talentueuse. Son seul défaut, c'est que ses titulaires jouent tout le temps plus de 30 minutes, 32 pratiquement, entre 32 et 36 pour les titulaires. C'est très élevé et c'est pas bon pour la suite de la compétition. En tout cas, on le dit depuis le début, mais ça a réussi jusque-là. Bon, après, on va voir ce que ça va donner sur la durée.
Oui, tout à fait, Célina. Et aussi, il faut remarquer qu'il y a eu l'absence de Barou, au premier match contre cette équipe de Zamalek. Je pense que le match aurait peut-être eu une différente conclusion si Barou avait été présent pour ramasser tous les rebonds qu'il ramassait. Ça aurait permis à Machete de aussi avoir d'autres rebonds et ça aurait peut-être plus pu rééquilibrer cette équipe et le résultat qu'il y a eu au premier match serait peut-être différent, serait peut-être un match à couteau tiré où le Maputo aurait pu tirer avantage de cela malgré la maladresse d'un Kabongo qui est devenu meilleur lors du deuxième match et du troisième, et aussi le troisième match aujourd'hui. Il a assez bien joué malgré tous les lancers francs qu'il ratait. Cette équipe de Maputo finalement sur le plan stratégique a montré de très très bonnes choses et comme tu l'as dit, le seul problème c'est qu'ils n'ont pas pu utiliser leur banc, essayer d'aller un peu plus en profondeur dans leur banc pour leur donner du temps de jeu, ce qui aurait permis de mieux les préparer pour un quart de finale. Parce qu'à partir du quart de finale, il n'y a plus de calcul, il n'y a plus d'erreur, c'est tu gagnes, tu restes, tu perds, tu rentres à la maison. Et donc, nous en sommes à cette situation-là, Céline.
Oui, mais moi, je me suis un peu d'essayer de voir... L'entraîneur de Maputo ne va pas faire tourner l'effectif. Mais à un moment donné, on peut le comprendre parce que par rapport au positionnement entre la première et la première et la troisième place, le goal différence va jouer, et la différence de points va jouer. Et maintenant, s'il peut, sur ce match-là, grappiller des points qui lui permettent d'avoir une différence positive, il le fait pour éviter certaines équipes au deuxième tour parce qu'on a vu Luis Monastir qui met pratiquement 100 points ou plus à chaque match. Ils ont mis 113 lors du premier, 99 lors du deuxième et ils montrent un niveau et une maîtrise parfaite. Si laisser les titulaires jouer jusqu'à la fin pour lui permettre d'améliorer sa différence de points positive et d'éviter ces équipes-là, je pense que c'est tout à fait justifié qu'il puisse se positionner de ce côté-là. Et moi, à un moment donné, je l'ai compris parce que l'écart montait jusqu'à 20 points et par moment, ça redescendait au gré des réactions d'orgueil du GSP. Donc, il a joué la prudence de bout en bout pour sécuriser sa qualification et surtout essayer de grappiller des points pour qu'il puisse lui permettre de se positionner afin d'éviter certaines grosses pointures dès les quarts de finale.
Oh, ben non, mais tout à fait ça, c'est clair. Il était obligé de faire ça. Je m'attendais seulement peut-être un peu, c'est-à-dire ne pas enlever obligatoirement le 5 majeur en entier, mais peut-être ajouter deux autres joueurs qui n'étaient pas dans le 5 majeur, juste les tourner par exemple spécialement au quatrième carton, les faire venir jouer 2 minutes, 3 minutes, sortir et faire de cette sorte-là, et peut-être qu'il aurait pu un peu plus donner d'expérience, mais comme tu l'as dit, c'était important d'assurer cette victoire, et quand on se base maintenant sur les statistiques, on se rend compte que cette équipe, parce que le score est beaucoup plus important, le score ne donne pas vraiment la réelle physionomie de ce match. C'est un match à plus de 20 points, mais à la fin, il a fait sortir tous les 5 majeurs, les remplaçants sont rentrés et ils jouaient contre les 5 majeurs de l'équipe du GSP. Donc ça leur a permis de revenir à la marque, descendre de 20 points à 13 points. Et quand on regarde les statistiques, on voit que finalement, à la fin, le GSP a un meilleur taux de réussite, 41% contre 39% à Maputo. Mais au niveau des lancers francs, Maputo a tiré quand même 41 fois pour marquer 29 fois. Spécialement Kabongo qui en a raté quand même pas mal dans ce match. Et je crois qu'il faudrait qu'il s'applique de ce côté parce que ces lancers francs feront la différence dans les matchs, le match des matchs de quart de finale. Les lancers francs, il ne faut pas blaguer avec. Il faut les marquer. Et bon, ils ont eu une nette domination au rebond, 55 contre 39, 24 passes décisives contre 14, parce que leur jeu était beaucoup plus fluide, la balle circulait beaucoup plus, il y avait des paniers faciles sur contre-attaque. Au niveau des vols de base, 8 à 7 pour Maputo, donc il n'y a pas une très grande différence. Des blocs, pareil, 3 à 2 pour Maputo, il n'y a pas très grande différence. En perte de balle 18 à 16, GSP 18, Maputo 16. Donc en fait, c'était un match qui, on peut le dire, n'avait aucune issue pour le GSP parce que, bon, sans banc, avec une seule personne qui marque presque tous les points, une équipe qui a des problèmes pour avoir des rebonds, Guizhou n'a pas été utilisé, à mon avis, assez pour pouvoir aider au rebond. Ça a coûté cher parce que je crois que l'entraîneur a donné l'impression de baser sa stratégie sur l'attaque, mais comment gagner un match si on ne fait pas la défense, Célina?
Oui, c'est clair, parce que comme on l'a souligné un peu, ils ont été agressifs en défense, il y a eu beaucoup de déchets. Il y a eu énormément de déchets, et tu l'as souligné, le GSP a fait énormément de fautes, a donné énormément de lancers francs à cette équipe. Dans ma photo en première mi-temps, le nombre de lancers francs pratiquement doublé la différence de points à la mi-temps, ce qui montrait que c'est eux en fait qui donnaient un peu les points à cette équipe de Maputo, parce qu'il faut être agressif dans le cercle, il faut montrer qu'on ne laisse pas de points faciles, mais il ne faut pas également tout le temps faire des fautes, parce que déjà ça place son équipe dans le bonus très rapidement. Ensuite, ça permet à l'adversaire d'avoir des lancers francs et donc des points faciles sur la ligne s'il s'applique, et on a vu que l'équipe de Maputo s'est beaucoup appliquée sur les lancers francs, parce que par exemple Kabongo en a eu 12, il a mis les 9, Massa a mis 7 sur 9 également, Mouchate a mis 5 sur 6, Barou a le plus faible taux au lancer franc et il en a mis 50%, il a mis la moitié de ses lancers francs. C'est dire que cette équipe a maximisé sur les lancers francs pour un peu accroître son avance dans le match, et quand on prend les points qu'ils ont mis au lancer, c'est 29 points. Ils ont mis 29 points sur la ligne des lancers francs sur 41. Ces 29 points-là, c'est plus que l'écart du match. Donc, si l'agressivité a été positive mais bien maîtrisée, ils auraient pu éviter peut-être cette défaite-là, parce que dans le jeu, ils n'ont pas fait jeu égal, mais ils sont parvenus à limiter les dégâts. Ils sont appuyés sur Hamdini pour faire la différence, mais en défense, ça a énormément pêché, et ce nombre de fautes-là le montre.
Tout à fait, tout à fait. En tout cas, à la suite de cette victoire de Maputo, Maputo prend la tête de ce groupe C, vu que Zamalek n'a joué qu'un seul match, donc elle aura 5 points, donc une victoire et 2 victoires et une défaite. Celui pour le moment de l'Est Douane qui jouera son match contre Zamalek demain, qui a une victoire et une défaite avec 3 points. Le Zamalek qui n'a joué qu'un match et une victoire, donc à 2 points, et on attendra probablement le match de demain pour voir après 2 matchs où ils se situent. Et n'oublions pas que eux ils jouent un troisième match contre ce GSP le lundi, le match qui n'a pas pu se jouer durant cette semaine. Donc on invite pour ce match, on peut dire à nos auditeurs que donc on a une victoire ici de Ferrovario de Maputo sur le GSP d'Alger sur la marque de 86 à 33, et nous les invitons à garder l'antenne pour suivre les matchs qui vont suivre. Nous avons le match suivant qui va se dérouler d'ici une heure de temps, et qui va opposer la belle équipe du GNBC qui a joué un très grand match de basketball contre les Patriots du Rwanda. Ils joueront contre les Rivers Hoopers, et donc on leur donnera rendez-vous tout à l'heure pour suivre ce match qui reste sur nos bandes FM à Bangui 101.7, sur à Brazzaville et Kinshasa sur les bandes 104.3, à Matadi, Boudjimbaï et Kananga sur la bande 93.5, à Pointe-Noire sur la bande 98.3, à N'Djamena sur la bande 93.1, à Dakar sur la bande 102, à Lubumbashi sur la bande 102.8, à Bukavu sur la bande 97.4, à Goma pour la bande 96.2, à Kisangani sur la bande 97.7, à Abidjan sur la bande 99, à Ouagadougou sur la bande 102.4, à Niamey sur la bande 102.5 et à Lomé sur la bande 102.3. C'est Eugène Péwa depuis le studio de la Voix de l'Amérique à Washington DC, et Célina Abagay depuis Dakar. On vous donne rendez-vous pour le post-game qui va suivre dans un moment. tout cas, nous avons pour nos auditeurs de la Voix de l'Amérique la cerise sur le gâteau. Il y a deux jours, notre reporter de la Voix de l'Amérique ici, Cheikh Tierno, a pu finalement avoir le président de la Ligue africaine de basketball à qui il a posé certaines questions par rapport au déroulement de cette compétition, qui est nouvelle, quelles sont ses impressions après un départ, et le président de la Ligue africaine de basketball a pu donner toutes ses impressions, le fait qu'aujourd'hui la Ligue africaine de basketball non seulement c'est au niveau du c'est au niveau non seulement des matchs, mais c'est aussi l'ensemble de tous les gens qui ont pris part à ces camps de NBA Out of Border, dont Cheikh Tierno d'ailleurs faisait partie de ce groupe de jeunes, et qui maintenant aujourd'hui travaille à Voix de l'Amérique et travaille dans le département du sport et couvre cette compétition, et nous travaillons ici. Donc je vous laisse suivre cette interview avec beaucoup d'intérêt, et je peux vous dire que vous serez satisfait par les réponses du président de la Ligue africaine de basketball, Amadou Fall Gallo, qui a pu, il y a deux jours, depuis Kigali, s'exprimer sur le niveau de la compétition, s'exprimer sur le côté organisationnel et aussi s'exprimer sur une projection dans le futur de ce que ça pourra apporter à notre basketball professionnel sur le continent africain. Donc écoutez, je vous laisse écouter et déguster cette interview.
En fait, c'est symbolique parce que pour nous, l'objectif a été toujours d'essayer de bâtir une industrie autour de notre sport, ce qui veut dire qu'au-delà des joueurs qui sont sur le terrain et des entraîneurs, il y a énormément d'autres métiers qui s'affairent autour du sport. C'est ce que nous voulons dire quand on parle de la Basketball Africa League comme un moteur de développement socio-économique en Afrique. Comme tu as pu le voir, l'histoire a été faite le 16 mars, le dimanche dernier. Il y a eu beaucoup d'émotions, je crois, dans les préparatifs, mais heureusement, tout s'est très bien passé, avec une audience panafricaine et mondiale. Les matchs, comme tu le sais, sont retransmis dans 215 pays en 15 langues et dans tous les coins du monde. Et c'est l'objectif, c'est justement de partager cette expérience avec tous les fans de basket au monde et au-delà. Moi, je prends beaucoup de plaisir à m'asseoir ici auprès du terrain et puis de regarder des équipes, 12 équipes différentes qui viennent de 12 pays différents avec un style de jeu différent, mais qui compte vraiment beaucoup de qualités techniques, athlétiques et physiques. Ça se passe bien, ça se passe très bien. Il y a un très beau produit qui est en train de se construire.
Vous pensez que c'est un problème de recrutement pour l'équipe du Nigeria qui vient juste de perdre leur deuxième match contre l'équipe tunisienne après avoir été battue par l'équipe du Rwanda au premier match? Ou bien c'est le point focal, c'est sur les joueurs locaux là-bas de s'exposer pour la NBA?
Moi, je suis persuadé que le Nigeria va rester un point fort des leaders dans le basketball en Afrique, parce que même en dehors du talent qui est en Amérique et dans la NBA, il y a du talent dans le pays même. Alors je pense que la UPEC, c'est que je crois savoir qu'il n'y a pas eu de championnat régulier. Depuis que cette équipe se qualifiait, je ne pense pas qu'il jouait régulièrement, et cela se voit. Je suis sûr qu'il peut montrer un bien meilleur visage, genre comme Ben Ouzo, qui est une des pièces maîtresses de leur équipe nationale qui va aller aux Jeux Olympiques pour représenter l'Afrique. Oui, ça demeure quand même. Je pense que aussi bien garçons qu'en filles, ils sont classés premiers dans le basketball africain. Je suis sûr qu'à l'avenir, ça va venir. Bon, pour le moment, nous sommes heureux d'avoir su reconduire les 12 équipes qui étaient en liste en 2020 quand on devait commencer. Et maintenant, vivement la deuxième saison où on va tirer beaucoup de leçons et on va aussi améliorer beaucoup de choses. Je suis sûr que ce sera pareil avec les équipes aussi. Pareil aussi, nous espérons que la pandémie sera dans une différente phase qui va nous permettre peut-être de repartir sur notre format original qui était de jouer dans plusieurs pays, mais pour le moment, on ne se plaint pas du tout. Kigali Arena est une infrastructure fantastique et je pense qu'on ne pourrait pas trouver mieux en Afrique. Organiser ces premiers
pensez que les prochains des années à venir, on va router en Afrique, c'est ce que vous voulez dire? Et ce tournant-là, on peut envisager de voir ça dans un autre pays africain, parce qu'avant que ça commence à Kigali, on avait entendu que ça allait se passer à Dakar et au Sénégal.
En fait, le format, c'était de jouer dans 6 pays différents, de jouer la saison régulière dans 6 pays différents, et de venir à Kigali pour jouer les finales, après les playoffs, quoi, qu'on va jouer ici la semaine prochaine. Mais bon, comme vous le savez, les conditions ne le permettent pas, mais notre objectif, c'est de retourner dans notre format originaire le plus tôt possible, qui était de jouer dans 7 villes différentes, dont inclut Kigali, parce qu'on avait désigné ces villes qu'on devait commencer à Dakar, après on allait à Monastir, à Luanda, à Lagos, au Caire, à Rabat, et pour finir les compétitions de saison régulière, et après les top 8 étaient qualifiés pour venir à Kigali. C'était le format original. Voilà, on a été obligé de tout faire. On devait jouer 38 matchs dans le format original, et maintenant bon, ça a été réduit à 26, bon, ce qui n'est pas mal. Mais en tout cas, on veut juste tenir en beauté et puis repartir pour mieux se préparer pour la deuxième saison.
On voit maintenant que les équipes favoris, c'est les Patriotes du Rwanda et c'est la Tunisie. Les gens se concentrent beaucoup sur le Sénégal qui a fait une défaite très dure hier à la dernière minute du match. Il y a d'autres équipes maghrébiennes qui sont en train de vraiment jouer. L'Angola a aussi décroché son ticket pour la prochaine étape.
Non, moi, c'est que je suis vraiment très satisfait du niveau. Ouais, je sais que pour un début, je vois des équipes très compétitives. Il y a des matchs disputés hier soir, très intéressants. Je suis sûr que pour défendre le basket partout, il y a du jeu sur le terrain. Il y a de très bons athlètes, surtout aussi bien les joueurs du CRU que les joueurs recrutés. D'ailleurs, l'équipe de Monastir se rend très bien. La plupart de nos joueurs sont dans l'équipe nationale. Petro est impressionnant. La zone joue un style qui est bon à voir. Et puis bon, ils sont très très acharnés en défense. J'aime l'équipe de FAP du Cameroun. Les résultats ne demandent pas encore sur le terrain. C'est vrai qu'ils ont eu des très costauds adversaires, mais c'est une équipe qui ne peut pas, qui a des individualités. Le jeune Aruna, qui est du Niger, que moi, je m'a beaucoup impressionné. Alors, je pense que sur toute la ligne, hier soir, c'était un match, hier après-midi, un match hyper disputé entre GMBC de Madagascar et les Patriotes du Rwanda. Tu vois, il y a des matchs intéressants et c'est pourquoi je suis hyper emballé pour voir les playoffs qui vont commencer la semaine prochaine, voir quels sont les 8 équipes qui vont se qualifier. Et puis, je suis sûr que ça va être une compétition très, très, très difficile.
Le président de la Ligue africaine de basketball, nous invitons tous nos auditeurs de la Voix de l'Amérique à Bangui, à Brazzaville, Kinshasa, Matadine, Boudi, Maï, Kananga, Pointe-Noire, N'Djamena, Dakar, Lubumbashi, Bukavu, Goma, Kisangani, Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Lomé, d'être prêt à regarder ce match d'ici une heure. Donc ce sera, disons, à Kigali, si je ne me trompe pas, à 11h30 heure de Washington. Il sera à Kigali, je crois, 16h30, 17h30 plutôt, à Kinshasa 16h30 et à Dakar 15h30. Donc ici Eugène Pewa Pelema depuis la Voix de l'Amérique et Sedina Abba Gay. Nous nous retrouvons à l'entre-deux pour voir ce match-là. Et nous espérons vous avoir sur notre chaîne pour suivre le reste des matchs. Surtout que demain, nous aurons aussi 3 autres matchs. Je me permets de donner les matchs de demain, qui se joueront entre le Zamalek et l'AS Douane, qui est un match qui compte énormément pour ce groupe C. les FAP du Cameroun contre la police dans le groupe B qui compte énormément pour le match de troisième meilleur, et l'AS Salé et le Petro de Luanda pour une finale de ce groupe qui déterminera qui est premier et deuxième de ce groupe. Donc nous vous retrouverons très bientôt pour suivre ce match qui démarrera dans un instant.
Bienvenue à vous, chers auditeurs, VOA Afrique au cœur de la Basketball Africa League. Nous nous associons à la NBA pour vous offrir le meilleur du basket africain. VOA Afrique vous propose un résumé quotidien des matchs dans son journal télévisé. Les rencontres sont diffusées en direct à la radio avec des émissions d'avant et après match. Vous pouvez également suivre tout sur la balle sur notre site web voafrique.com. À eux de jouer, à vous de suivre. Vive le basket africain sur VOA Afrique et nos radios partenaires.
I want you to